Ésaïe chapitre 62, versets 1 à 5. Au nom de Jésus. Par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas sans rien faire. Jusqu'à ce que ta justice dé ta juste délivrance apparaisse comme le jour et que ton salut brille comme une torche enflammée. Les nations constateront que le Seigneur t'a délivré, tous les rois contempleront ta gloire. On te donnera le nom nouveau que le Seigneur aura prononcé. Dans la main du Seigneur, de ton Dieu, tu seras comme un turban royal, comme une couronne de fête. On ne t'appellera plus la ville abandonnée. On ne nommera plus ton pays la terre dévastée. On t'appellera au contraire plaisir du Seigneur. Et l'on nommera ta terre la bien mariée. Car tu seras vraiment le plaisir du Seigneur et ta terre aura un époux. Oui, comme un jeune homme épouse une jeune fille. Ainsi, celui qui te rebâtit sera un mari pour toi, de même aussi qu'une fiancée fait la joie de son fiancé. Tu feras la joie de ton Dieu. Amen. Vous comprenez maintenant le thème, pourquoi j'ai choisi ce thème. Il y avait un grand fou amoureux de son peuple. J'en connais une parmi nous à être ravie, émerveillée, même en lisant et écoutant ce genre de texte, car c'est une lettre d'amour, une déclaration d'amour pour sa bien-aimée, ou plutôt pour sa fiancée. L'auteur se laisse emporter avec cet amour de Dieu pour son peuple en utilisant des mots hyper chargé de sentiments, d'émotions. Regardez bien, couronne de splendeur, tiare de royauté, celle en qui je prends plaisir, l'épouser, la fiancée, la jeune fille, et ici quand on parle de la jeune fille en hébreu, c'est la vierge. Alors nous allons dire, oula, c'est quoi ce texte? Qu'est-ce qui lui a pris cet auteur ou ce prophète à dire des mots pareils qui sont comme des flots de déclarations d'amour? En regardant ces détails que je viens d'énumérer, cela nous fait tout de suite, je ne sais pas pour vous, mais ça fait écho en moi, le livre du Cantique des Cantiques, le livre qui est difficile à avaler parfois. Parfois, on zappe, on dit, ah, ça, c'est pas pour moi, c'est peut-être pour les couples, pour ceux qui s'aiment. Beaucoup trébuchent devant ce livre de Cantiques des Cantiques, car vu la forme et les termes utilisés dans ce livre, nous avons tout de suite la tendance de le réduire en un livre typiquement réservé qu'aux amoureux, aux futurs mariés qui vont se marier. Ils choisissent souvent des versets bibliques dans ce livre. Je trouve que c'est trop réducteur. Comme si c'était qu'un manuel à suivre rien que pour les couples. Et pourtant, ce n'est pas du tout le cas. On va voir à travers ce texte que nous avons aujourd'hui dans le lectionnaire, nous pouvons voir clairement que c'est Dieu qui déclare sa flamme à son peuple, à l'homme. Et c'est le but du livre des Cantiques des Cantiques. Et d'ailleurs, dans la tradition juive, le moment où les Israélites lisent ce livre des Cantiques des Cantiques, ils le font pendant la fête des Pâques, où ils se rappellent la rédemption d'Israël. Étonnant. Donc cette rédemption se fait par le rachat du peuple d'entre les mains de son bourreau en tant qu'esclave. Et notre texte ici, ainsi que le Cantique des Cantiques, sont exactement pareil. Il parle d'une déclaration d'amour de Dieu, une déclaration époustouflante à son peuple, malgré son statut qui, signalons-le, une personne qui vient de sortir de la captivité, parallèlement à Israël qui a été racheté de l'Égypte pour sortir de l'esclavage. Et donc nous pouvons imaginer l'état de cette personne, personnifiée en une jeune fille qui sort de l'esclavage, qui sort de la captivité. Vous pouvez voir un peu le topo, n'est pas du tout beau à voir. Quelqu'un qui vient de sortir de l'esclavage, on peut imaginer comment est l'état de cet individu. Alors si nous posons la question, qui est cette épousée? Qui est cette fiancée? Qui est cette vierge décrite dans le texte? Eh bien, c'est celle qui a été délaissée, celle qui a été abandonnée. Et même le texte, si on le lit avec plus d'analyse, celle qui a été abusée, pour ne pas dire violée. C'est l'image du peuple d'Israël, avec les stigmates de la servitude pendant des années et des années, des siècles et des siècles. Et pourtant, Dieu lui fait des éloges, comme si elle était la plus belle de toutes les femmes, la plus jolie de toutes les femmes, la plus digne, la plus pure, la plus glorieuse. Oh, c'est une femme qui a été vendue esclave. Est-ce à cette personne-là que Dieu s'adresse et dit, celle en qui je prends plaisir? On sent le poids de cette phrase. Et oui, c'est effectivement à elle que sont destinés tous ces mots d'amour, tous ces mots doux. Alors je vais vous poser une question directe et même franche. Honnêtement, est-ce que si vous étiez un roi ou un prince, aurez-vous un regard pareil pour une fille qui a été abusée, qui a été estropiée à cause des années de service aux mains de son bourreau? Je crains que non. C'est seulement dans les contes des fées que ce genre d'histoire se produit, dans les romans pour faire du best-seller. On pourrait dire que c'est une histoire très rare même, s'il y en a. Ce n'est pas la seule fois, pourtant, dans la Bible qu'on utilise cette métaphore dans la relation de Dieu et de son peuple ainsi. Dieu aime vraiment se considérer comme étant l'époux de son peuple. Et surtout, l'époux qui attend le retour de son épouse. Son épouse qui est partie chercher un autre homme, mieux que lui, à travers l'histoire des histoires d'Israël. On peut voir par exemple dans l'histoire de la vocation du prophète d'Osée. Cette histoire-là est difficile à comprendre, car qui aurait pu penser que Dieu demanderait à son serviteur, Osée, le prophète Osée, d'épouser une prostituée, Gomer. Va, épouse une prostituée, dit l'Éternel. Il a fallu passer par là pour faire comprendre au peuple d'Israël qu'il s'est comporté comme une prostituée en se livrant aux autres dieux. Or, ce peuple avait déjà son époux, Yahvé, l'Éternel. Mais malgré tout, l'amour de l'Éternel pour celle qu'il avait choisie comme épouse est resté intact. Ça n'a pas bougé d'un iota. Voilà l'amour de Dieu, un amour indéfectible. Il est impressionnant de voir comment Dieu nous voit, chers frères et sœurs. Comment Dieu te voit. Comme ici dans le texte, les autres nations se moquent d'Israël, ce peuple, à la nucrède, comme étant la délaissée. Et si on tient compte, ce qui est visible, le temple détruit, la ville en désolation, muraille d'Israël abîmée, plus personne sur le trône de David, etc., etc. Voilà l'image d'Israël. Effectivement, le titre que les autres nations lui donnent colle bien avec la réalité, la délaissée, l'abandonnée. Mais il est dit que l'Éternel lui donnera un autre nom. Je te donnerai un autre nom. Un peu comme, on parle ici dans la relation d'amour entre deux personnes, comme si on se donnait des surnoms, comme les amoureux qui se donnent des noms entre eux et qui sont les seuls à savoir le sens et la valeur des noms qui se donnent. Et le nouveau nom est annoncé ici au verset 2. Je vais relire. Les nations constateront que le Seigneur t'a délivré. Tous les rois contempleront ta gloire. On te donnera le nom nouveau que le Seigneur aura prononcé. Ici, c'est celle qui a été délivrée. Ce n'est pas juste un nom banal, sans signification. Donner un nom à quelqu'un, c'est donner un titre qui appelle au respect vis-à-vis de cette personne. Il se peut qu'avant il n'était personne, mais dorénavant, lorsqu'il reçoit un nom, comme les nouvelles princesses qu'on voit ici dans ce monde, issues d'un milieu social modeste, une fois cette dame est mariée au prince ou un roi, cette personne reçoit immédiatement un nom qui oblige et force ses administrés à un respect dû à son nouveau rang. Telle était la promesse que l'Éternel a faite à son peuple en revenant de Babylone. Il l'exhortait à ne pas avoir honte face aux moqueries de ses voisins autour d'eux. N'aie pas honte. Sois fier de ce que tu es. Ne te courbe pas devant tes ennemis. Au contraire, le prophète les appelle à dresser leur tête et de ne pas avoir honte. Dans Ésaïe chapitre 54, verset 4, il est dit « Tu ne seras plus humilié, n'aie donc pas peur. Tu ne seras plus déshonoré, ne te sens plus honteuse. Tu oublieras l'humiliation que tu ressentais dans ta jeunesse. Tu ne penseras plus au déshonneur que tu éprouvais quand tu étais veuve. » Lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte, non seulement ils avaient vaincu Pharaon, mais ils sont sortis avec toutes les honneurs, la tête haute, parce que les Égyptiens leur ont donné leur or, leur argent, comme étant des butins de guerre. Et l'esclave qui avait honte devient un dieu aux yeux des Égyptiens. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai qu'ils n'étaient pas contents de ce qui les arrivait avec les 10 plaies d'Égypte. Mais quand ils ont vu qui était le dieu de ce peuple, car lorsqu'un individu, à l'époque, était reconnu comme dieu, il était de la coutume de donner des offrandes aux personnes considérées comme dieu. Voilà comment Dieu rend la gloire de son serviteur. Donc nous pouvons aussi se référer au retour d'Israël de Babylone, ils étaient sous la protection de Cyrus, l'empereur, rappelez-vous aussi. Ce peuple qui était captif était sous la protection de l'empereur. De plus, Néhémie avait bien bénéficié de la faveur financière du roi pour reconstruire le mur de Jérusalem. Et nous pouvons imaginer la nostalgie qui pesait sur le cœur de ces exilés au retour du pays. Où est passée la fierté du royaume? Plus de temple, tout est à refaire. Mais voilà ce que Dieu avait annoncé à son prophète. Ainsi, la splendeur du nouveau temple surpassera celle du premier. Et en ce lieu, je vous accorderai la paix. C'est moi, le Seigneur de l'univers, qui le promet. Haggai, chapitre 2, verset 9. Ces deux exemples nous montrent clairement que malgré l'humiliation qu'Israël avait subie lors de ces événements douloureux, l'Éternel a toujours le dernier mot. Et voilà le message pour nous ce matin. Quelle que soit l'humiliation que nous subissons, quels que soient les moments difficiles que nous traverserons, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et quand la parole dit « c'est lui qui a le dernier mot », non seulement le dernier mot, mais avec une manière, comme on dit. Il rend la gloire de son peuple. Et même ses ennemis l'ont reconnu.
que Dieu Yahvé est le seul Dieu. Amen.